le 16 mars 1963. Mère reprend la précédente conversation sur la mort quand elle a eu cette expérience de quelques secondes où elle a cru saisir le secret central. C'est cette expérience que Mère avait appelée la mort de la mort.
C'est curieux ces choses-là. Activement, on ne se souvient plus. C'est-à-dire, ça ne peut pas se traduire par aucune espèce de pensée. La sensation même active de l'expérience s'atténue. Et pourtant, on n'est plus la même personne. C'est ça qui est si remarquable. J'ai eu ce genre de phénomène plusieurs fois. Je ne sais pas, je ne me souviens pas assez pour dire exactement combien de fois. Mais plusieurs fois dans ma vie. Et toujours, c'était la même chose. Pas la même personne. On est devenu quelqu'un d'autre. On est devenu tous les rapports avec la vie, les rapports avec la conscience, les rapports avec le mouvement, tout change. Et pourtant, la chose centrale, c'est une vague impression. Au moment où on a, pour cette seconde, c'est d'une clarté, d'une précision, c'est foudroyant. Mais probablement le système cérébral et nerveux n'est pas suffisant, n'est pas en état de conserver. Mais toutes les relations sont changées. On est une autre personne. Très souvent, ça a été comme ça. L'impression qu'on a dans la vie ordinaire, il y a peu de gens qui s'en rendent compte, mais c'est une impression que je sais que tout le monde a des dessous. Et un destin, une fatalité, une volonté, un ensemble de circonstances, n'importe les mots, ça n'a pas d'importance, c'est tout qui pèse sur vous. Et qui veut se manifester à travers vous. Et qui pèse sur vous. Ça a été la première de ces expériences passées par vous. Il y a très longtemps. C'est au commencement du siècle. Une expérience comme ça, je ne me souviens plus laquelle, mais tout d'un coup, oh, on est tout de suite. Je me souviens parce que, à ce moment-là, j'ai dit aux gens que je connaissais, je m'occupais déjà peut-être du cosmique. C'était à ce commencement, peut-être avant. J'ai dit aux gens qui m'entouraient, mais il y a un état dans lequel on est libre de décider ce que l'on va faire. Quand on dit « je veux », ça veut dire que ça sera. Et c'était ça l'impression dans laquelle je vivais. Au lieu de me dire « je voudrais bien faire ça, je voudrais bien que ça arrive », n'est-ce pas, avec ce sentiment d'une fatalité qui fait l'impression qu'on est tout de suite, qu'on décide. Ce sera comme ça, ce sera comme ça. Ça, c'est mon souvenir du commencement du siècle. J'ai eu un nombre assez considérable. Et depuis cette expérience-là, qui a duré une seconde, j'ai l'impression, ce même genre d'impression que quand avant j'agissais, n'est-ce pas, pour les gens, ou pour les empêcher de mourir, ou pour les aider une fois qu'ils étaient morts, des centaines et des centaines et des centaines de choses que je faisais tout le temps. Mais je les faisais avec l'impression de la mort qui était comme ça, et comme quelque chose qu'il fallait vaincre ou, n'est-ce pas, dominer ou réparer les conséquences. Mais c'était comme ça, la mort était juste un petit peu au-dessus. Et à partir de ce moment-là, la tête était tout de suite, la tête, la conscience, la volonté. C'était du côté du Seigneur quand j'ai eu une expérience il y a fort longtemps. Toi, Sri Aurobindo était là une nuit. C'était, je l'ai écrit, que j'avais eu l'expérience d'être en contact avec le Seigneur suprême, et la chose concrète, c'était on ne meurt que quand tu veux. Je sais pas, je me souviens plus, j'ai écrit la phrase, mais l'idée était ça. Le Seigneur ne vous fait mourir qu'avec votre consentement. Il faut donner le consentement pour mourir. Et à moins que lui ne décide, jamais on ne peut mourir. C'est deux choses. Que pour mourir, il faut que quelque chose, c'est-à-dire l'âme, au-dedans d'être conscient. Que l'âme dise oui, alors on meurt. Mais quand l'âme dit oui, c'est le Seigneur qui décide. Alors ça, n'est-ce pas, ça c'est une expérience, c'était la même chose que j'avais vu comme ça. Et à ce point de vue-là, depuis ce moment-là, cette certitude qu'on ne peut mourir que quand le Seigneur le veut. Parce que ça dépend entièrement et absolument de sa volonté, qu'il n'y a pas d'accident, qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, des malheurs inattendus, comme les êtres humains pensent. Ça n'existe pas. C'est lui qui veut. Depuis là, jusqu'à tout dernièrement, c'était ça, c'était dans cette connaissance-là. Mais avec l'impression de pas tout à fait l'inconnu, mais l'incompréhensible. Qu'il y a quelque chose dans la conscience qui ne comprend pas. Ce que j'appelle comprendre, c'est d'avoir le pouvoir de faire et de défaire. C'est ça que j'appelle comprendre. Le pouvoir d'exécuter et de défaire. Ça, c'est la vraie compréhension. Le pouvoir. Eh bien, ça échappé. C'était encore le mystère du suprême infini. Et au moment de cette expérience, ça a été... Ah, maintenant, ça y est. Je l'ai. J'ai attrapé. Cette fois-ci, je le tiens. Je ne l'ai pas tenu, c'est parti. Mais ma position a changé. C'est encore une chose que je montais au-dessus. Ma position. J'observais beaucoup chaque fois que quelqu'un mourait ici dans la chambre. Eh bien, quelqu'un, une ou deux personnes sont mortes depuis cette expérience. Je crois, mais je... Ah oui. La sœur du docteur. C'était absolument différent. C'était quelque chose que c'était évident. Et il n'y avait plus de mystère. Mais quand on me demandait d'expliquer ça, je ne sais pas les mots, le mental. Mais la position de la conscience était différente. Position de la conscience. C'était tout à fait différent. Et ça, c'est arrivé chaque fois. Mais alors, ça prend quelquefois des années pour se changer en un pouvoir conscient. Mais ce pouvoir conscient, dans ce cas-ci, ce serait le pouvoir de donner et d'empêcher la mort également. De faire le mouvement de force nécessaire. Presque une action sur les cellules. Presque une action mécanique sur les cellules. Et ça, ce pouvoir-là ferait que on peut donner la mort, on peut empêcher la mort, et ce n'est plus du tout cette sensation qu'on a d'une opposition brutale entre la vie et la mort qui est son contraire. La mort n'est pas le contraire de la vie. C'est à ce moment-là, j'ai compris ça, je ne l'ai jamais oublié. La mort n'est pas le contraire de la vie. C'est pas le contraire de la vie. C'est comme un changement dans le fonctionnement des cellules. Ou dans leur arrangement. Ça maintenant, c'est tâcher de tirer un souvenir qui est enfoui. Mais c'est ça. Et alors, si une fois qu'on a compris ça, mais tout ce que l'on comprend, on peut le faire. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on peut le faire, alors, c'est très simple. On peut très bien empêcher que ça passe ici ou que ça passe là. On peut faire comme ça ou comme ça. Et alors, ça devient presque un jeu d'enfant de faire mourir ou de faire vivre. Et ça, on pourrait le garder. Mais ça, c'est sûr. J'espère que ça arrivera, je ne sais pas dans combien d'années. Mais c'est une chose qui est devenue évidente. Et ça me paraissait, comme je l'ai dit l'autre jour, ça me paraissait un secret assez central. Pas le plus central de tous. Non. Mais assez central en connexion avec la vie terrestre. crise. Évidemment, ce serait une phase nouvelle de la vie terrestre. Et ça pourrait presque se traduire plus tard avec une courbe ascendante de la science moderne par une connaissance matérielle. Ce ne serait pas ça, ce serait l'image de ça, ce que je figure or representation. Figure or representation. C'est le mot le plus proche, cette image. C'est une image, c'est pas la chose elle-même, c'est sa projection, comme sur un écran de cinéma. Il est évident que les choses approchent de ce que pour la conscience ordinaire est le merveilleux. Quand on comprend, on peut faire. Et tout ce que les hommes font, c'est une volonté consciente ici, mais un pouvoir invisible qui vient ou qui ne vient pas, qui est à leur disposition ou qui ne l'est pas. Mais c'est ce pouvoir invisible qui fait ça, qui conçoit. Et alors c'est ça, c'est ce mouvement-là de passer de là. Et on s'aperçoit que toutes ces conceptions, c'est presque comme les notes d'un instrument universel, n'est-ce pas? On peut jouer sur toutes ces notes, c'est très bien, ça fait un très bel orchestre. Mais ce n'est pas essentiel, c'est accessoire. C'est ça qui est nécessaire. Ça qui sait comment ça doit faire, comment on doit jouer.
Le 19 mars 1963, après une méditation avec mère,
quand tu médites, tu es conscient de passer d'un état dans l'autre. Non, parce que le commencement, c'est cette vibration où il y a toutes les couleurs, mais qui a une dominante considérable de bleu. C'est ce que moi, j'ai Maintenant, j'appelle le pouvoir tantrique dans la matière. Ça, c'est tout de suite avec toi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est comme un espèce d'état normal de concentration. Et puis après, c'était comme si tu te recules ou tu te déploies dans une grande immensité d'un blanc, argenté très tranquille, et très uniforme. Et c'est comme une espèce de recul de la vie extérieure, mais de déploiement dans cet état-là. Et finalement, alors, vient une descente, alors littéralement descend, une lumière dorée très intense. Très intense, très, d'un doré, coloré, n'est-ce pas, enfin, vraiment doré, très, très intense, et comme dans un état de ce qu'ils appellent maintenant atomisation. C'est un poudroiement. Mais les trois se succèdent. Tu ne sens pas comme ça.
Je sens le deuxième mouvement. J'ai l'impression que c'est tout large et puis blanc et ouvert. Et...
Ah, c'est ça.
Ça, je sens. Oui, comme si c'était... Je vois pas.
C'est blanc?
Oui.
C'est blanc et très intense. Et très, très, très vaste, très tranquille, très, très bien. Le dernier, ça fait comme ça. Et ça enveloppe ta tête. Mais cette force bleue, cette lumière bleue, avec laquelle, n'est-ce pas, je la connaissais depuis longtemps, mais je ne l'avais pas définie. C'était un pouvoir de conscience, un pouvoir de conscience dans la matière. J'ai su exactement ce que c'était quand j'étais en rapport avec Pandini. D'abord avec Swami, là, et puis Pandini. Et alors maintenant, à partir de ce moment-là, alors je pouvais dire clairement quand je voyais quelqu'un s'il pratiquait le tantrisme ou pas. Mais maintenant, quand je vois une photographie, c'est la même. Et hier, on m'a moi donné la photographie de quelqu'un et j'ai senti la même, cette même impression de force. Alors, je n'ai rien dit. Et puis j'ai demandé qu'est-ce qu'il fait ce homme-là. C'est un homme qui est occupé extérieurement, peut-être des affaires, peut-être. Je ne me souviens plus. Alors, on m'a donné une lettre qu'il avait écrite, dans laquelle il disait qu'il, depuis quelques années, il essayait le yoga d'après la méthode française. Ça sortait de sa photo. Il y a eu un homme que j'ai connu, et c'était après avoir su ce que c'était, mais celui-là, je l'ai trouvé assez formidable. C'était l'homme qui s'occupait de tous les rites religieux et de tous les prêtres et de Bhagavad. tu te souviens, Bhagavat? De l'état, de son état. C'était lui qui était à la tête. Quand Bhagavat était ici, cet homme était venu pour le chercher. Et alors, il m'a amené à moi. Je l'avais vu, il était venu un 9 décembre, je crois, quand je suis allé chez Manoranjan, là-bas à Alphocher. Et tout d'un coup, je marchais pour voir des choses, j'ai senti quelque chose qui tirait comme ça. Sans douceur. Alors je me suis retourné, j'ai vu un grand homme qui était debout, qui m'a regardé comme ça. Et alors je ne savais pas qui c'était, on ne m'avait rien dit, j'espère, je l'ai regardé. Et je lui ai simplement répondu à son impudence. Alors c'est tombé comme ça, j'étais étonné. Et alors après, on ne m'a pas dit qui c'était, mais il a demandé à venir me voir. Et alors quand il est entré dans la chambre, j'ai senti un être solide. Je ne sais pas comment définir ça. Je n'avais jamais senti ça avec un être humain avant. C'était solide au point d'être inébranlable, n'est-ce pas? D'une solidité extraordinaire, coagulée, construite, n'est-ce pas? Et ma foi, c'était puissant. C'était pas en flèche, n'est-ce pas? C'était tout là, comme ça. Et alors, ça a été très amusant. Parce que certainement, il doit avoir un effet.